Nous allons pouvoir commencer. Nous sommes évidemment très très heureux de pouvoir accueillir aujourd'hui Madame Riet van Bremen, qui est professeure à l'University College London, non pas à Oxford, comme cela avait été écrit par erreur dans le programme initial. Oxford n'est que son lieu de résidence. Elle a d'ailleurs, pour faire bonne mesure, séjourné aussi assez longtemps à Cambridge. Il est vrai que le monde académique anglais lui est fort connu, très familier. Elle l'a fréquenté assidûment à partir des années 1980, quand elle préparait sa thèse de doctorat sous la direction d'un épigraphiste bien connu, l'éditeur du Supplementum Epigraphicum Graecum, le professeur Harry Plackett, à l'université de Leyde, donc aux Pays-Bas. C'est que Madame van Bremen est de nationalité néerlandaise. C'est d'abord à Amsterdam en 1996 qu'est paru le livre qui a d'emblée attiré l'attention et l'admiration sur notre hôte, auteur de l'ouvrage que j'ai ici devant moi, considérable, qui porte le titre « The Limits of Participation ». Participation à quoi ? Et de qui, quand et en quel lieu ? Heureusement, il y a un sous-titre qui vient nous éclairer. « Women and Civic Life in the Greek East and the Hellenistic and Roman Period ». Cet ouvrage ne saurait guère, me semble-t-il, être rangé dans la catégorie des gender studies, dès alors florissantes. En tout cas, il est totalement exempt de militantisme et d'idéologie féministe. C'est une étude remarquablement documentée sur l'apparition d'un phénomène nouveau à partir du 3e et surtout du 2e siècle avant Jésus-Christ, l'irruption des femmes dans certaines sphères de la vie publique, surtout, mais pas exclusivement, en Asie mineure. Un grand livre d'histoire sociale qui montre à la fois l'ampleur, la rapidité de cette progression vers une visibilité encore inconcevable au temps classique, mais en même temps, ses limites, justement, puisque les femmes dans l'Antiquité gréco-romaine, ne parviendront jamais tout à fait à franchir certaines barrières, celles du pouvoir effectif dans la cité, et à accéder, encore moins, je dirais, au Sénat romain, même quand elles appartiendront à des familles entrées dans la classe sénatoriale et promues ainsi aux plus hautes magistratures de l'Empire. Depuis l'apparition de ce livre, qui a fait date, encore une fois, dont les conclusions pourront difficilement, me semble-t-il, être remises en question, Riet van Bremen a poursuivi sa recherche essentiellement dans deux directions, qui d'ailleurs s'entrecroisent naturellement. Elle travaille d'une part à établir le recueil commenté, très commenté, d'inscriptions grecques de certaines régions de l'Asie mineure, en particulier en Carie, autour de la ville de Stratonicée, qui est une fondation royale hellénistique, comme aussi en Troade ou dans la l'Éolide voisine, par exemple à Kymée, dont elle a naguère étudié, ou plutôt réétudié, une inscription des plus fameuses relative justement à l'une de ces femmes, qui s'appelle en l'occurrence Archippe, pratiquant l'évergésie à très grande échelle. À la Troade se rattachent ses travaux sur Cyzique, vieille cité milésienne, dont justement elle nous parlera aujourd'hui. Devenue donc avec les années une spécialiste reconnue des villes d'Asie mineure, peut-on dire, elle a tout naturellement mis ses pas dans ceux de notre maître Louis Robert, en exploitant aussi le trésor des archives du maître conservé, comme vous le savez, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et c'est une des raisons qui nous vaut le plaisir de l'avoir assez souvent à Paris. L'autre direction prise par notre collègue dans ses investigations épigraphiques pourrait de prime abord paraître un peu surprenant, en effet, délaissant partiellement la compagnie des femmes, Robert Van Bremen cultive de préférence depuis quelques années celle des jeunes gens, ou des hommes jeunes, des néoï. Mais le passage des corail au couroil n'est pas une surprise totale pour le lecteur de Limits of Participation, car c'est sans doute, c'est une hypothèse, c'est en constatant l'absence dans le monde des femmes, dans le monde des jeunes filles, cette classification, ces classes d'âge qui sont si caractéristiques de du monde des hommes, et celui des garçons, que notre collègue a commencé à s'interroger sur le sens même de cette classification masculine. C'est pourquoi nous lui sommes très reconnaissants d'avoir accepté de venir nous parler ici et en français, en se donnant cette peine, des néoï dans le monde hellénistique, en nous donnant ainsi la primeur d'un ouvrage qui sera sans doute au moins aussi considérable que celui-ci sur ce beau sujet. Je précise une chose avant de lui laisser la parole à sa demande. Le programme va subir un tout petit changement en troisième position, la troisième leçon. Nous n'aurons plus d'illusions éphébiques, mais ce sujet est remplacé dans la même sphère par une étude sur la néotasse ou néothèse, donc la jeunesse, entre guillemets, dans le monde crétois, donc un autre volet. D'autre part, notre hôte souhaite que, au terme de cette première leçon, qui est une épreuve quand même pour elle, il n'y ait pas de questions. Elle les réserve pour les trois prochaines, alors, ce qui n'empêcherait pas de poser des questions sur l'exposé d'aujourd'hui. Voilà, cher Rien, nous vous laissons la parole. On vous remercie encore de tout cœur.
Merci, merci. Alors, je tiens pour commencer à remercier mon hôte, Denis Knapfler, pour son invitation et les paroles si aimables qu'il vient de prononcer, et à remercier vous aussi qui êtes venus aujourd'hui m'écouter. Je parlerai, j'espère, pour 60 minutes. Alors, si vous voulez partir à 11 heures exactement, c'est possible. Alors, en 1933, à l'âge de 32 ans, Clarence Forbes publiait son ouvrage intitulé « Néoï, a contribution to the study of Greek associations », un livre court de 69 pages qui couvrait à la fois la période hellénistique et la période romaine. Il était courant à cette époque d'évoquer les néoï, littéralement les jeunes ou les jeunes gens, comme un phénomène social, une sorte d'association ou de club. Forbes les comparait au YMCA, Young Men's Christian Association, un rapprochement frappant à défaut d'être pertinent. Le titre du livre était un programme en soi. Forbes se situait dans la tradition de Zibart avec Das griechische Vereinswesen, publié en 1896 et de Poland avec sa Geschichte des griechischen Vereinswesens, publié en 1909. Rares sont ceux qui approuveraient aujourd'hui la façon dont Forbes définit les néoï, bien qu'assez récemment encore, en 1987, Emil Eben qualifiait les éphèbes et les néoï de « mouvements de jeunesse » et que Sviatoslav Dmitriev, dans son livre « City Government in Hellenistic and Roman Asia Minor » de 2005, voyait en eux une organisation à caractère social, « a social organization ». Le groupe de Néoï faisait partie intégrante de nombreuses cités du monde hellénistique. Après Alexandre, ils apparaissent non plus simplement comme une catégorie d'âge à l'intérieur du corps civique, mais comme formant pour la première fois un groupe à part entière associé au gymnase, au monde agonistique et à l'activité militaire. Naturellement, le mot « néos » lui-même n'est pas spécifique à la période hellénistique. Le pluriel « néoï », le jeune, est générique, il est déjà utilisé dans ce sens chez Homère et Hésiode. Chez Homère, les mots « néoï » et « kouroï » apparaissent de manière interchangeable pour désigner le jeune homme, souvent par opposition avec les « gérontès », les hommes d'âge mûr, de même que le nom singulier « Hebe, littéralement l'âge adulte, apparaît dans un sens collectif pour désigner ceux qui sont dans le premier épanouissement de l'âge adulte. C'est sur ce concept central de Hebe qu'ont été formés des adjectifs comme Protebes, dont la première fleur de l'âge adulte, Anebos, qui n'a pas encore atteint l'âge adulte, et Ephébos, qui entre dans l'âge adulte. Dans un sens relatif, la combinaison néotéroï-presbytéroï permet de distinguer comme deux groupes séparés les hommes les plus jeunes et les hommes plus âgés à l'intérieur du corps civique, chaque groupe étant souvent associé à des qualités, des défauts et des comportements spécifiques. Si l'origine du concept de néos, comme celui des phèbes, de païs et de presbyteros, réside dans les catégories d'âge qui structuraient la société depuis des temps immémoriaux, leur développement en un groupe bien identifiable est pour l'essentiel un fait propre à l'époque hellénistique. Au cours des trois siècles précédant l'ère chrétienne, les néoï se sont développés en une collectivité selon des modalités qui ne nous sont pas toujours bien claires. Leur institutionnalisation semble s'être effectuée plus ou moins en parallèle avec celle de l'Éphébie et elle a largement coïncidé avec le développement et la monumentalisation du gymnase civique. Des groupes de néoï sont aujourd'hui attestés dans plus de 50 cités. Le témoignage le plus ancien datant du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les deux groupements, Éphèbes et Néoï, étaient étroitement associés et formaient à maint égard un continuum. Cette continuité et l'existence de Néoï en tant que groupe distinct remettent en cause, dans une certaine mesure, la dichotomie structuraliste entre l'adolescent et le soldat citoyen accompli, particulièrement, mais pas de manière exclusive pour l'époque classique, une séparation fondée sur le modèle du chasseur noir qui tire son nom de l'étude bien connue de Pierre Vidal-Naquet. Selon ce modèle, une fois l'éphébie terminée, le jeune homme franchissait un seuil et rejoignait les rangs de citoyens. L'accent est mis ici sur la période d'exclusion rituelle qui serait en nette opposition avec la vie civique régulière et serait suivie d'une pleine intégration dans les rangs de citoyens. La validité de ce modèle a été postulée pour la période hellénistique également, en particulier par Mitiade Hatzopoulos à propos de la société macédonienne. Mais une opposition aussi tranchée doit être nuancée. Le jeune citoyen, une fois sorti de l'éphébie, demeurait en fait dans un stade d'inachèvement pendant une période de 10 ans. Le processus de socialisation et d'exclusion était donc plus long qu'on ne le prétend. Ce n'était pas avant l'âge de 30 ans qu'un homme se voyait pleinement intégré dans le corps civique et qu'il avait le droit d'être élu au conseil ou à une magistrature. On ne doit quand même pas supposer qu'il existait un vocabulaire parfaitement cohérent et uniforme pour qualifier l'ensemble de la néothèse. Pour désigner le jeune homme, de nombreux termes génériques étaient en fait en usage, les uns propres à un contexte spécifique, les autres délibérément imprécis, comme meirakion ou neianias. il existait en outre des variations régionales et des usages différents entre les cours royales et les cités, particulièrement dans l'emploi des termes néaniskos et néos. Néaniskos, petit jeune homme, était un terme assez protéiforme qui pouvait être utilisé pour désigner un jeune, un adolescent, ou même un éphèbe ou un garçon, mais qui pouvait aussi être l'équivalent exact de néos. Chez Polybe, où il est d'usage si fréquent, le mot néaniskoi, en pluriel, signifie les jeunes hommes, mais il désigne plus souvent les jeunes soldats, et même quelquefois, par un raccourci de langage, les soldats en général. Dans un contexte civique aussi, néaniskoi est utilisé pour désigner des néoi en armes, les jeunes combattants de leur cité. Les travaux récents de Angelos Haniotis, de Andrei Shankovsky, de Denis Knöpfler et de John Ma, entre autres, ont permis de réévaluer l'importance de ces néaniskoi en tant que force combattante dans les cités grecques de la période hellénistique, avec les phébies comme cadre d'entraînement préparatoire et le gymnase comme lieu focal, alors que les études précédentes tendaient à sous-estimer cet aspect des choses. Les sources relatives aux néaniskoi en armes ne cessent de s'accroître. Outre les études sur le rôle des jeunes gens comme unité de défense territoriale, telles les péripoloi, attestées en particulier en Grèce du Nord-Ouest, Épire, Phocide, Illyrie, Acarnanie, ou les cryptoi athéniennes de Ramnonte, brillamment analysées par Denis Knöpfler, de nouvelles inscriptions sont venues enrichir nos connaissances sur les néaniskoi en Asie mineure. La plus récente d'entre elles est un texte d'un intérêt considérable, bien qu'il soit malheureusement très endommagé, qui provient de Tabai en Decarie, la moderne Calais, nichée dans les hauts plateaux sauvages des confins caro-pisidiens. Il s'agit d'une lettre du roi Attalide Eumène II aux Tabéniens, honorant un personnage au nom phrygien ou pisidien de Kotéies, leur concitoyen et son philos ou ami, qui, ayant quitté sa cité avec un groupe de néaniskoi ton oikeion, de jeunes soldats de sa maison, avait gagné en un seul jour Apamée de Phrygie. Vous voyez la flèche et Apamée est jusque-là, assez loin. Le contexte doit être celui de la seconde guerre contre les Galates entre 168 et 166. Le texte dans son ensemble est fort intéressant et aussi fort difficile, et je recommande la discussion de Patrice Hamon dans le bulletin épigraphique de 2009 qui est dans votre dossier. La question la plus importante pour notre propos est celle de l'identité de ces ton oikeion néaniskoi. Bien qu'ils soient citoyens de Tabai, Kotéies semble avoir à sa disposition un corps de néaniskoi entraîné à titre privé appartenant à sa maison. La traduction laisse bien des questions ouvertes. On ne voit pas clairement comment Kotéies s'inscrivait dans le cadre de sa cité, ni quel était son statut ou la nature précise de ses relations avec la cour attalide. On pourrait voir en lui un chef de guerre, un grand propriétaire terrien qui fut admis dans le cercle des amis de Mène en raison du soutien militaire qu'il pouvait lui apporter dans une région mal contrôlée et encore rebelle. Un autre cas est bien connu et a déjà fait l'objet d'une discussion approfondie, c'est celui des néaniskoi civiques qui avaient accompagné un certain Apollonios, fils d'Attalos de Métropolis d'Ionie, dans sa marche à travers le Tmolos et la plaine de Choropédion jusqu'à Thyatire, afin de venir en aide aux contingents romains qui y étaient stationnés pour contrer la menace d'Aristonikos de Pergame, prétendant au trône attalide en 132 avant Jésus-Christ. Tous, y compris Apollonios lui-même, trouvèrent la mort dans la bataille et leur mémoire fut célébrée sur un monument érigé sur l'agora de Métropolis. À Métropolis, près d'Éphèse, comme ailleurs, le lien entre l'entraînement militaire et le gymnase paraît fermement établi. Dans un décret antérieur gravé sur la même base, Apollonios est loué pour avoir obtenu du roi Attal II une subvention annuelle pour la fourniture d'huile au gymnase des Neoi. On voit que les jeunes gens de Métropolis étaient des Neoi en temps de paix et des Neaniskoi en temps de guerre. Comme je l'ai déjà montré brièvement, l'émergence de groupes de Neoi est étroitement liée à l'adoption graduelle dans de nombreuses cités d'une éphébie de type athénien, c'est-à-dire à l'institutionnalisation d'une période d'entraînement militaire et de service d'un ou deux ans, obligatoire pour tous les jeunes hommes entre 18 et 20 ans. Les Athéniens avaient instauré leur nouvelle éphébie en 335-334, peu de temps après la défaite des cités grecques face à Philippe de Macédoine, à Chéronée en 338, et immédiatement après avoir recouvré le territoire béotien de Oropos. Le processus et ses ramifications ont été bien discutés par André Jankowski dans son livre récent « L'éphébie hellénistique » qui répertorie systématiquement l'apparition de l'éphébie dans les cités d'Asie mineure et des îles de l'Égée. Dès la fin du IVe siècle, l'éphébie devint un élément structurel de nombreuses cités hellénistiques en remplissant un rôle militaire, mais aussi en éduquant, socialisant et intégrant les jeunes gens. Toutefois, le lien entre l'adoption quasi universelle de l'éphébie et l'apparition de groupes de Neoi n'est pas sans difficulté. L'une a-t-elle généré l'autre ? Ou l'une peut-elle expliquer l'existence de l'autre ? C'est ce que pensait Franz Poland, qui dans son livre « Das griechische Vereinswesen » de 1909 affirmait, je traduis de l'allemand, « L'éphébie donnait l'opportunité aux amis qui s'étaient rencontrés pendant leur service militaire de pratiquer par la suite des exercices physiques les uns aux côtés des autres. » De cet esprit de corps éphébique seraient nés plus ou moins spontanément des associations d'hommes d'âge plus mûr, in reiferen Jahren. De la même manière, André Jankowski définit les Neoi comme un groupe nécessairement corrélatif au groupe des éphèbes. Mais si, comme Jankowski l'a soutenu, c'est bien l'éphébie athénienne réformée qui servit de modèle dans de nombreuses cités d'Asie mineure et de l'Égée, il n'est pas sans intérêt de relever que, à Athènes même, nous n'avons aucune attestation de l'existence d'un corps de Neoi. Et cette observation peut être étendue, presque sans exception, à l'ensemble des cités de Grèce continentale situées au sud de la Macédoine. Une autre hypothèse a récemment retenu l'attention, selon laquelle il existe un lien direct entre le développement du gymnase et l'émergence de groupes de Neoi. Ces groupes se seraient développés à l'origine en tant qu'association d'usagers du gymnase, comme hoi alei fomenoi, ceux qui soignent de l'huile, hoi ento gymnasio neaniskoi, les jeunes gens dans le gymnase. Dans cette première phase de développement, l'institution était plus ou moins autonome, ou en tout cas gérée de manière privée, et ce n'est que dans un second temps que la cité en prit le contrôle. En tant que groupe d'âge le plus activement engagé dans les exercices physiques et peut-être au début de l'histoire du gymnase, le seul groupe d'usagers réguliers les Néoï prirent en main la gestion et l'administration financière du lieu. Il arrivait souvent que le gymnasiarque ne soit pas ou pas encore un magistrat civique, mais qu'il soit élu par la communauté du gymnase elle-même, à des rythmes différents selon les cités et dans certaines, pas avant le IIe siècle avant Jésus-Christ, cet établissement de nature privée se transforma en une institution contrôlée par la cité. Le processus a été récemment qualifié de « étatisation »,« verstaatlichung » par Christoph Schuller. Un tel modèle situe clairement les Néoï dans le cadre du gymnase, mais aussi, de façon paradoxale, à côté de la police, « neben der Polis », pour emprunter une formule de Michael Wörle dans un article récent. Ces hypothèses peuvent sembler contradictoires et l'on doit s'interroger sur leur validité. Retenons pour l'instant un fait important. L'EFEBI relevait par définition du champ d'action de la cité et fut créé à l'initiative des autorités civiques. Les Néoï, au contraire, sont en général considérés comme une organisation beaucoup plus souple, de nature associative, créée sur la base du volontariat et centrée sur le gymnase. On doit souligner cependant le fait que, en tant que sous-groupe à l'intérieur du corps civique, ils se définissaient aussi par leur statut civique, par leurs droits et leurs devoirs à l'égard de la cité. Dans un article à paraître, Pierre Fröhlich les décrit comme un groupe original dont la structure pouvait être qualifiée d'association privée, mais qui s'était constituée dans le cadre d'une obligation publique civique, par quoi il entend, je pense, les obligations militaires qui leur incombaient. Il y a là certainement des incohérences à élucider. Certaines seront abordées aujourd'hui, les autres dans la conférence de vendredi prochain, Synagen tus Neus. Il y a encore d'autres aspects de la question que je souhaiterais explorer et en ajoutant une facette supplémentaire à ce que j'ai présenté jusqu'ici. Dans les cités hellénistiques, le type social du néos entre fortement en résonance avec des figures mythiques et héroïques, et donc aussi culturelles, présentes dans l'imaginaire collectif, et cela davantage sans doute encore que les Phèbes. Les Néoï jouissaient en outre d'une nette identité psychologique, individuelle et collective. Un noyau dense de fonctions, de rituels et de cérémonies se concentrait autour du groupe de Néoï. Est-il donc vraiment justifié de faire de l'Éphèbe le pôle magnétique de l'imaginaire civique grec? Les aspects imaginaires et psychologiques sont liés à un troisième aspect de la personnalité collective des Néoï, avec lequel ils entretiennent une tension constante. Les jeunes gens de cet âge constituaient, dans la cité, un élément potentiellement dangereux, voire destructeur. Ce danger pouvait se manifester de façon bénigne, par exemple dans l'indiscipline qui régnait au sein du gymnase de Beroia en Macédoine. Dans votre dossier, c'est le numéro 3, le texte A face A, ligne 11 à 15. La loi gymnasiarchique de cette cité, document important et désormais bien connu, daté des premières décennies du IIe siècle avant Jésus-Christ, commence en effet par l'affirmation suivante. La gestion du gymnase dépendant directement de la cité, les pouvoirs du gymnasiarque d'infliger amende et peine seront affichés et sanctionnés par la loi, si bien que, je cite, les jeunes gens néotéroï feront preuve de plus de retenue et obéiront mieux à leur chef. Heute néotéroï malon Eisruntesontheise, c'est un mot assez fort. Plus rarement, le potentiel déstabilisateur des néoï pouvait aller jusqu'à donner naissance à un conflit ouvert, à une stasis, comme nous le savons par exemple par le récit que fait Polybe de la guerre civile qui fit rage entre néotéroï et presbytéroï dans la cité crétoise de Gortyne en 221-221, où les néotéroï et presbytéroï de la cité choisirent des partis différents dans un conflit extérieur. J'y reviens dans ma troisième conférence. Pour Agelos Chaniotis, de tels récits se modèlent inconsciemment sur les clichés très répandus sur le caractère à la fois impulsif, agité et héroïque des jeunes gens et ne sont donc pas dignes de foi. Certes, un schéma aussi binaire n'est guère plus crédible que les analyses d'autres auteurs antiques en termes d'opposition entre riches et pauvres ou entre l'élite et la masse. Il n'en reste pas moins que ces clichés sont d'une certaine manière révélateurs des catégories de pensée politique et sociale et que là où certains ne voient des clichés, d'autres verront plutôt des structures. Quoi qu'il en soit, cette tension sous-jacente n'est pas une particularité du monde hellénistique, ni même des cités grecques en général. Il s'agit d'un invariant historique. À toutes les périodes de l'histoire, les sociétés ont répondu de manière variée aux phénomènes de rébellion de la jeunesse. Ce qui caractérise les cités hellénistiques, c'est qu'elles firent du groupe d'âge le plus instable et potentiellement le plus dangereux un corps organisé dont on était membre pendant une bonne dizaine d'années. Les jeunes citoyens étaient socialisés dans des rituels civiques répétitifs. On leur donnait certains droits civiques, mais pas tous. On leur fournissait des armes et un entraînement physique et on leur enseignait à se comporter de manière efficace à la fois comme groupe politique et comme unité combattante. Il en résultait une forte identité de groupe. Sur le plan politique, les néoï pouvaient agir de manière contrôlée comme un groupe de pression. Et ils apparaissent en tant que tels dans les décrets civiques, dans des formules comme « hoi neoi eipan »« les neoi ont fait la proposition » ou « hoi neoi epelton »« les neoi se sont présentés devant le conseil ou l'assemblée pour faire telle ou telle proposition ». Les historiens hellénistiques comme Polybe nuance en revanche l'image ordonnée et édifiante qui émerge des inscriptions en soulignant leur caractère perturbateur à travers des récits de conflits entre générations. Alors, après ces remarques d'ordre plutôt général, tournons-nous maintenant vers le nord-ouest de l'Asie mineure, c'est-à-dire vers la zone comprenant l'Hellespont, la Mysie et l'Éolide. C'est une région qui, pendant la plus grande partie du IIIe siècle, fut disputée entre les grandes dynasties Antigonides, Séleucides, Lagides, Attalides, ainsi que les dynasties du Pont et de Bithynie. Elle fut aussi la première à subir le choc de l'invasion des tribus galates en Asie mineure au début des années 270. Parmi les cités établies dans cette région, je m'intéresserai en particulier à Cyzique, la moins étudiée des grandes cités d'Asie mineure et l'une des moins bien connues. Fondation milésienne, Cyzique était un centre commercial actif grâce à sa situation favorable sur les routes maritimes, son excellent double port, son très vaste territoire et son réseau de relations commerciales qui s'étendait de la Russie méridionale et de la Thrace jusqu'à la côte sud de l'Asie mineure et à la Syrie du Nord. Ces monnaies d'électrum du Ve siècle sont parmi les plus extraordinaires des monnaies grecques d'époque classique. Ces inscriptions, attendent encore un véritable corpus. Une grande partie des trouvailles architecturales faites sur le site, y compris de nombreuses inscriptions, ont été depuis longtemps dispersées, importées les unes vers Istanbul, à Istanbul, les autres à Bursa, et il reste aujourd'hui peu de choses à voir sur place. Vous aviez une vue là, du nord-ouest, avec Bandırma à gauche et le golfe d'Erdek à droite. Comme ça, c'est à l'inverse. Et c'est là votre point de vue, la flèche rouge. Cyzique devint partie intégrante du royaume séleucide après la défaite de Lysimaque. En 281, il demeura probablement jusqu'à l'effondrement du pouvoir séleucide dans les années 230. À toute époque, Cyzique eut des relations étroites avec la dynastie des Attalides de Pergame. Cyzique eut des relations. Attal Ier, troisième dynastie et premier à prendre le titre royal, épousa une Cyzicénienne, Apollonis, aux environs de 240, et en 167, leur fils Eumène II pouvait faire état, dans une lettre au Koinon des Ioniens, de sa parenté personnelle avec les Milésiens Dia Kyzikenus, par l'intermédiaire des Cyzicéniens. Cyzique était la cité de Corée, la fille de Déméter qu'il avait reçue en dot de Zeus, et qui, comme Sotéra, la salvatrice, était souvent venue en aide à ses habitants dans des circonstances difficiles, en particulier pendant le célèbre siège de la cité par Mithridate, le roi du Pont, en 73 avant Jésus-Christ. La déesse figure déjà de profil sur les monnaies de la fin du IVe siècle. Voilà, c'est elle. Et après, vous avez une monnaie du IIe siècle, oui, la prochaine, oui, c'est ça. Mais Cyzique était aussi la cité de la Grande Mère. En tant que mater d'Indumène, elle résidait dans la péninsule de Arctonessos, l'île des Ours, sur le mont d'Indymos, avec ses deux pics jumeaux. Voici comme Apollonios de Rhodes, poète alexandrin du IIIe siècle, décrit la cité, dans le premier livre de ses Argonautiques, une description beaucoup plus profonde que la mienne, dans la traduction de Francis Villon. Je cite, « Il est à l'intérieur de la Propontide une île escarpée, située en avancée dans la mer, à si faible distance de la terre aux riches moissons de Phrygie, qu'elle n'en est séparée que par un isthme baigné des flots. Elle descend en pente abrupte vers le continent et possède des rivages dotés d'un double havre. Elle se trouve au-delà du fleuve Aisepos. » Mont des Ours, Arctonessos, est le nom que lui donnent les peuples des environs. Cette île avait pour habitants des êtres féroces et sauvages, des fils de la terre, Gegeneis, prodigieux à voir pour les gens d'alentour. Ils brandissaient chacun six bras vigoureux, deux partant de leur robuste épaule et les quatre autres plus bas attachés à leurs flancs redoutables. Au contraire, l'isthme et la plaine étaient peuplées par les Dolions, sur qui régnait le fils d'Aineus, Kyzikos, qu'avait enfanté la fille du divin Eusoros, Ainete. Jamais les fils de la terre ne les pillaient, Poséidon les protégeait, car les Dolions descendaient de lui à l'origine. C'est la fin d'Apollonios pour le moment. Alors, Cyzique est l'une des premières cités où l'épigraphie atteste l'existence d'un corps de Néoï. Dans les années 270, ils reçoivent une somme d'argent conséquente de la part de Philétairos, le premier dynaste de Pergame. en 5 occasions différentes aux mains entre 280 et le début des années 260, Philétairos, fils d'Attal, offrit des bienfaits à la cité et lui apporta son assistance dans des circonstances difficiles. Sous Lysimaque, Philétairos avait eu la garde de Pergame et du trésor de 9000 talents qui étaient entreposés. Il en devint de facto propriétaire après son changement d'allégeance en faveur de Séleucos Ier. On ne laisse pas d'être surpris que ni Séleucos Ier ni son fils Antiochos Ier ne semblent avoir revendiqué ce trésor une fois que Lysimaque eut été défait à Coropédion. Nous ne savons pas quelle position officielle il occupait au sein de l'administration, c'est Philétairos, de l'administration séleucide, s'il en avait une. Le terme dynastès employé à son propos convient par son caractère vague pour qualifier son autorité, en particulier ses relations avec la satrapie séleucide de l'Hellespont qui incluait Cyzique et avec son stratège, à cette époque, un personnage du nom de Méléagros reste obscur. On ne peut que spéculer sur les motivations qui l'animaient dans sa politique généreuse à l'égard de plusieurs cités, d'Éolide et de Mysie. Robert E. Allen, dans son livre « The Attalite Kingdom », parle avec une confiance peut-être excessive des, contours qui se dessinent de la politique d'un royaume pergaménien indépendant dans le nord-ouest de l'Asie mineure. Les dons en question étaient néanmoins substantiels et Philétairos était clairement perçu comme un acteur régional important, car une cité aux mains institua chez elle un culte en son honneur au cours des années 270. Examinons maintenant plus en détail les dons de Philétairos aux Cyzicéniens. Dans votre dossier, c'est le numéro 2. Ils sont énumérés sur une haute stèle de marbre trouvée dans le port intérieur de la cité. La donation se présente comme une liste de bienfaits dans un ordre chronologique, mais pas nécessairement par années successives. Avec l'indication du magistrat éponyme annuel, l'hyparque, 5 noms sont conservés, mais on peut supposer l'existence d'un 6e dans la ligne 24, après lequel viennent encore plusieurs autres lignes. Vous trouverez le texte de l'inscription et une traduction dans votre dossier. À l'écran, vous voyez le fac-similé de la publication originale. La pierre est aujourd'hui perdue et l'on n'en connaît aucun estampage. Les dates en marge dans votre dossier de votre texte sont celles qui sont considérées comme probables. J'ai largement suivi la chronologie défendue par Karl Strobel dans son livre « Die Galater » où il soutient que la guerre à laquelle il est fait allusion lors de l'année de Bufantides est celle menée par Antiochos Ier, contre le roi de Macédoine Antigonos Gonatas, allié à Nicomède de Bithynie et à une série de cités de la région en 280-279, tandis que la guerre galate, mentionnée sous l'hyparque Diomédon, plus au bas, doit être placée vers la fin des années 270. Selon Strobel, la date de l'hyparchie du dieu Poséidon se situe dans un bref épisode de paix. Le texte porte en titre « Voici les dons faits au peuple à titre gratuit par Philétairos, fils d'Attal. Sous l'hyparque Gorgipides, fils d'Apollonios, pour des concours, 20 talents d'argent d'Alexandre et pour la garde du territoire 50 chevaux. Sous Bufantides, notre territoire étant livré à la guerre, l'exemption de taxes pour le bétail et tous les biens qu'ils avaient mis à l'abri et pour les bovins qu'ils avaient achetés et exportés de son territoire. Ces bienfaits sont assez remarquables car les territoires de Cyzique et de Pergame n'étaient pas du tout limitrophes à cette époque et les Séleucides possédaient des terres royales près de Zéléia. Après, sous Phoenix, la garde du territoire et les dépenses y afférentes, sous Poséidon, pour l'huile et la synagogue d'Enéoï, 26 talents d'argent d'Alexandre, sous Diomédon durant la guerre contre les Galates, Médimne de blé, etc. Nous nous intéressons à la quatrième entrée, ligne 15 à 18, sous l'hyparque du dieu Poséidon, dans l'année pendant laquelle Poséidon tint la magistrature éponyme d'hyparque, ce qui veut dire que les fonds pour l'exercice de la magistrature provenaient du trésor du dieu. Pour l'huile et pour une synagogue, ou peut-être les synagogas au pluriel des Néoï, 26 talents, une somme considérable destinée à financer une fondation perpétuelle. La première chose que l'on peut noter est que c'est au peuple de Cyzique que ces dons sont adressés et l'on doit considérer que les Néoï de Cyzique n'étaient pas ici une association privée d'usagers du gymnase, mais une sorte de sous-groupe, sous-section de la cité, et que l'approvisionnement en huile du gymnase incombait à la cité. En fait, stricto sensu, le don de Philetairos pour l'achat de l'huile n'est pas destiné exclusivement aux Néoï, puisque le génitif, ton néon, ne peut renvoyer qu'à synagogue. Avec Elaion, on attend le datif, comme par exemple dans une inscription de Ramnante de 225-24, où le personnage honoré a donné de l'huile pour les Néaniskoi, et teken de Kai Elaion, tois Néaniskois. Mais le manque de précision peut être dû à la brièveté d'un texte rédigé en style télégraphique. Je ne peux m'empêcher de citer la suite du texte de Ramnante déjà évoqué. Hina epimelomenoi tu somatos dunatoteroi ginontai, de sorte que, en prenant soin de leur corps, ils deviennent plus forts. Et on pourrait ajouter pour en faire de bons soldats. On conclura donc provisoirement qu'à Cyzique, la catégorie des plus jeunes citoyens commençait à acquérir une identité mieux définie et que ce dynaste particulier avait le souci de soutenir et d'encourager ce processus. Étant donné le contexte général et la nature des dons de Philetairos dans leur ensemble, on ne saurait ignorer le rôle militaire évident de ces Néoï. Le mot synagogue de synagein, rassembler, collecter, m'intrigue. La plupart des commentateurs ont suivi l'interprétation de Louis Robert et de Philippe Gauthier et ont traduit par banquet ou fête. Le mot n'est pourtant nullement courant pour faire référence à des banquets. Il est remarquablement absent de la discussion de Pauline Schmidt-Pantel sur le vocabulaire du banquet public dans son livre « La cité au banquet ». Louis Robert écrivait que, je cite, « la tusilla, le sacrifice, et la synagogue vont normalement de pair ». Pourtant, dans son commentaire de l'inscription, Wilhelm Dittenberger soulignait que, bien que le verbe et le nom ne soient pas rares, il ne savait pas si l'on pouvait songer à des banquets sacrificiels dans le cas des Néoï de Cyzique. Je voudrais donc explorer plus en détail la signification du mot. Aussi bien comme verbe que comme substantif, il est totalement neutre et signifie simplement rassembler, réunir. Il est fréquemment utilisé à propos de réunions d'associations, souvent, mais pas toujours religieuses. Le substantif apparaît par exemple dans la longue inscription de fondation consacrée au IIIe siècle, par une femme de Théra, Épictéta, où il désigne les réunions de l'association cultuelle qui doit honorer son mari et ses fils défunts. Il ne fait aucun doute que ces réunions comprenaient à la fois un sacrifice et un banquet. Mais le verbe synagein peut aussi renvoyer à la fondation d'une association. Il figure dans ce sens dans une inscription célèbre de Magnésie du Méandre, datée du IIIe siècle, dans laquelle trois ménades expertes, Cosco, Baubé et Tétalet de Thèbes, rassemblent trois tillas ménadiques. Hemen Cosco sun egagen, tiazon ton platanistenon, etc., head Baubo, etc. Dans un décret bien connu de Théos pour le prêtre du roi Eumène et de Dionysos, le musicien et artiste dionysiaque Craton adresse les Atalistai, une association créée par Craton lui-même dans le but de célébrer un culte en l'honneur des rois Atalides. Dans cette inscription, les Atalistes font référence à eux-mêmes en tant que synagoguen axian usan tes heauton eponymias, dignes d'avoir reçu le nom des Atalides, et comme ayant été huf heautou syn egmenon, littéralement comme ayant été rassemblés par lui, c'est-à-dire fondés par lui. Dans un fragment de lettres daté de la 7e année du règne du roi Attal II, Craton lui-même s'adresse à eux comme « tois atalistais, tois huf heautou sun egmenois ». Le verbe pouvait également être utilisé à propos de réunions de corps politiques, comme l'Ecclésia à Beroia, dans la loi gymnasiarchique du début du IIe siècle que vous avez dans votre dossier, c'est le face A, la ligne 3. De Samos, aussi dans votre dossier, provient le décret suivant, daté du IIe siècle avant Jésus-Christ et particulièrement intéressant pour mon propos. Il a plu, je cite, à ceux qui fréquentent littéralement ceux qui joignent d'huile la palestre des anciens, s'étant réunis en assemblée, synartesin eis ecclesian. On trouve une expression similaire encore dans la loi gymnasiarchique de Beroia, où au début de l'année civique, le gymnasiarque doit réunir, again dans ce cas, une ecclésia de ses utilisateurs ento gymnasio, afin de désigner trois hommes comme hypogymnasiakoi. C'est la face A, ligne 34 à ligne 36. Pourquoi me semble-t-il aussi important d'établir la signification précise et le contexte de ce mot? En partie parce que je pense qu'il pourrait éventuellement indiquer que nous nous trouvons dans les premier stade du processus de transformation d'une catégorie générique de jeunes hommes de la cité en un groupe doté d'une identité collective mieux définie, auquel on fournissait de l'huile pour prendre soin de leur corps, de sorte qu'ils puissent devenir plus forts et dotés de moyens nécessaires pour s'organiser en un corps constitué. Je n'entends pas suggérer que Philétaïros ait été personnellement responsable de l'établissement d'un tel corps, mais plutôt qu'il perçut son importance et qu'il donna à la cité les fonds nécessaires pour lui permettre de fonctionner pleinement et efficacement. Dans son livre récent, L'Éphébie hellénistique, André Chankowski développe une thèse fondamentale sur la signification du terme néoï dans un certain nombre de documents du début du IIIe siècle. Et notre texte de Cizik compte parmi ceux qui ont retenu particulièrement son attention. Sa thèse, je le cite pour ne pas déformer sa pensée, est que dans le contexte du gymnase, comme c'est indubitablement le cas ici, les termes de néoï et de néaniskoï, je cite, sont utilisés de façon large lorsqu'on parle de la communauté de la jeunesse du gymnase. Comme il l'explique lui-même ailleurs, il entend par là, je cite, « un groupe de jeunes gens qui, divisés en classes d'âge, suivent un programme d'entraînement prescrit par la cité ». En revanche, je cite toujours, ce terme désigne toujours la classe d'âge supérieure aux éphèbes lorsqu'on vise le statut des personnes à l'occasion d'un concours où il s'agit d'une autre catégorie d'âge que celle des éphèbes ou à l'occasion d'une démarche auprès des instances de la cité où il s'agit d'un groupe de caractère différent de celui des éphèbes. Le second emploi du mot « néos » est pour lui technique, le premier est général. Il existe même quelques cas où, selon lui, les deux sens, technique et général, alternent dans la même inscription. Cette proposition est intéressante et j'entends y revenir plus en détail dans ma prochaine conférence. Elle est déterminante pour la thèse centrale défendue dans le livre d'André Chankowski, car la distinction entre sens général et sens technique lui permet de postuler dans nombre de cas l'existence d'un corps d'éphèbes, quand bien même nous n'en avons aucune attestation directe avant une date beaucoup plus tardive, et donc de postuler que l'éphébie apparut à une date relativement précoce dans plusieurs cités d'Asie mineure, y compris Cyzique. Je n'ai aucunement l'intention de remettre en cause cette thèse d'un revers de main, et je ne peux du reste pas la réfuter de manière incontestable, mais je formulerai dès à présent quelques réserves quant à la double interprétation du terme « néoï ». En effet, si l'on accepte que le terme néoï puisse être utilisé au sens large pour désigner la jeunesse du gymnase, nous perdons une information importante sur le développement des néoï en tant que groupe séparé, car ce sont là précisément les témoignages les plus anciens que nous avons sur eux. Être jeune à Cyzique. Cette phrase peut s'entendre également dans un sens tout à fait différent. Cyzique devint en effet, peu après les généreux dons de Philétairos, l'une des localités phares des Argonautiques d'Apollonios de Rhodes, ce poème épique écrit en contexte alexandrin autour de 260-250, et qui eut une grande influence sur les poètes postérieurs. Ce qu'on appelle l'épisode de Cyzique, l'escale de Cyzique, qui commence au vers 936 et se poursuit sur 200 vers, est l'un des morceaux de bravoure du livre premier. Vous connaissez déjà le début. Érudit et complexe, regorgeant de détails de géographie historique et mythique, il contient plusieurs aitia, explications de cultes locaux et de nombreuses allusions homériques. En insérant cet épisode entièrement original dans l'histoire des Argonautes, Apollonios fit un très large usage d'historiens et chroniqueurs locaux, parmi lesquels l'auteur du IVe siècle, Déocos de Cyzique, et les chroniqueurs Agathoclès et Néantès. Alors, je continue l'histoire. Ayant quitté Phère de Thessalie sous la conduite de Jason, sur la route qui le menait à la conquête de la Toison d'Or, dans la lointaine Colchide, les Argonautes mouillent sur le rivage occidental de Cyzique, en un lieu appelé Fontaine Artachienne, nom dont la moderne Erdec conserve la trace. Ils sont amicalement reçus par Cyzicos, le jeune roi homonyme de la cité. L'âge du roi est comparable à celui de Jason, je cite, « Comme pour Jason, le duvet de ses joues était à peine germé et bien que récemment marié, ce n'était pas encore son lot d'avoir la joie des enfants. » Le matin suivant, les hommes montent au sommet du mont Dindymon, Arctonessos, pour inspecter les routes maritimes depuis les hauteurs, tandis que dans la plaine, d'autres membres d'équipage sont occupés à changer la position du navire pour l'ancrer dans le port fermé de la cité Chytos Limen. Mais les fils de la terre, les Gegeneis, apercevant les hommes, accourent depuis l'autre côté de la montagne et tentent, en lançant d'énormes rochers, de bloquer l'embouchure du port fermé. Jusqu'à ce jour, de gros rochers parsèment toute la montagne et l'on peut imaginer sans peine les géants à six bras en train de les lancer. Mais Héraclès, qui était demeuré en retrait avec les hommes plus jeunes, Sun Andrasin Hoplotheroisin, se mit à leur lancer des flèches au moment où ils soulevaient les gros rocs. Les autres héros viennent à son aide et finalement les Gegeneis gisent morts étendus sur le rivage. Le mot plus courant pour désigner les hommes les plus jeunes parmi les Argonautes est celui de Hoplotheroi, littéralement les mieux armés, un terme homérique. Ainsi, par exemple, au début du livre 1, Polyphémos, l'un des héros, est décrit comme ayant été jadis au nombre des jeunes combattants. Hosprin men hoploteros polemiz. On trouve aussi Koroteroi pour établir une différence entre les jeunes hommes, comme par exemple dans un passage où les hommes les plus jeunes, Koroteroi, doivent emporter les taureaux hors des étables pour un sacrifice. De nouveau, dans le livre 2, les plus jeunes Koroteroi, parmi les compagnons, préparent le repas. Les héros eux-mêmes sont désignés comme des kouroi dans la tradition homérique, mais ils sont aussi et fréquemment appelés neoi. Ce mot est toujours utilisé pour faire référence aux argonautes en tant que groupe. Par exemple, pour les argonautes écoutant Jason pour la première fois, avant qu'il ne quitte la Thessalie, ce dernier les réunit en assemblée. Le terme est utilisé aussi pour désigner les argonautes assis ensemble sur la plage ou couchés du soleil, buvant et échangeant des plaisanteries agréables aux néoï qui égayent la bonne chère et le vin quand la funeste démesure, hubris, est absente. Dans le même passage, un Jason triste et anxieux est réprimandé par Idas, agressif et barbu, qui buvait son vin pur. Tenant, je cite, à deux mains sa coupe pleine, il buvait par le vin pur le vin délicieux, en arrosant ses lèvres et sa barbe noire. La barbe est ici un marqueur distinctif de l'homme plus âgé, le presbytéros, et elle est aussi rare parmi les argonautes que chez les rois hellénistiques, à une ou deux exceptions près. Ça, c'est Démétrios, Polyeur 7, sans barbe. Et ça, c'est le très jeune Philippe V, à l'âge de 20 ou 21 ans, avec barbe, très idiosyncrate. Néoï est de nouveau utilisé au livre 3 pour désigner les argonautes en assemblée, approuvant le plan de Jason d'aller dans le palais d'Aïétès en Colchide. Je cite... Les Néoï approuvèrent à l'unanimité le discours de l'Aisonide, c'est Jason, et personne n'émit une opinion différente. L'emploi de Néoï tout au long du poème pour désigner en particulier la collectivité formée par les argonautes est tout à fait significatif. Dans son excellente introduction au premier volume de l'édition de la CUF, Francis Villon note, je cite, il est probable qu'à l'origine, tous les argonautes appartenaient à une même classe d'âge et Apollonios en garde le souvenir quand il les désigne sous le nom collectif de Néoï. J'ajouterai qu'il s'agit d'une désignation collective familière dans le monde où vivait Apollonios lui-même. L'épisode de Sisyphe se termine mal. Après leur départ de la cité durant la nuit, les argonautes sont déroutés par de violents orages et ramenés vers l'autre côté de l'isthme. sur la côte orientale. Dans un épisode nocturne plein de confusion au cours duquel l'ami est pris pour l'ennemi, les héros rencontrent une nouvelle fois les Dolions et par erreur tuent le jeune Kizikos et nombre de ses Dolions. Jusqu'à ce jour, dit le texte, les habitants de la cité glorifient leur chef tombé au combat par des honneurs héroïques. Quand le jour se lève, les Argonautes se rendent compte de l'ampleur de leur horrible méprise. Pendant 3 jours, ils se lamentent avec les Dolions. Puis, ils organisent des concours funéraires et ensevelissent Kizikos dans la plaine située en contrebas de la ville, là où, jusqu'à ce jour, se dresse sa tombe. Dans son chagrin, la jeune épouse du roi Cléité se pend et les larmes des nymphes forment une source qui, jusqu'à ce jour, s'appelle Fontaine de Cléité. Pendant 2 jours, les héros sont empêchés de mettre la voile par des vents contraires. Puis vient un bon présage et Jason est pressé de se rendre propice la grande mère de Lyda, qui veilla sur les sommets au-dessus de la ville en fondant un culte en son honneur. Cette partie de l'histoire est clairement un aition, une explication de l'origine de ce culte particulier. On conduit des taureaux au sommet de la montagne et l'ensemble de l'équipage assiste Jason dans sa tâche. Les hommes coupent un vieux pied de vigne qu'Argos sculpte avec art pour en faire une statue de culte et la place sur une crête rocheuse sous les chênes les plus hautes. Ensuite, ils édifient un autel avec des pierres et offrent à la mère des sacrifices. Et pendant que Jason verse une libation sur les flammes de l'autel, les jeunes hommes, les Néoï, sous la conduite d'Orphée, dansent une danse en armes, en sautant Skyrontes et en frappant leurs boucliers avec leur épée pour essayer d'étouffer les pleurs qui montent de la ville. La danse armée qu'ils accomplissent, Betharmon Enoplion, était associée tout spécialement aux courettes, comme dans l'hymne à Zeus de Callimaque, je cite, « Et autour de vous, les courettes dansèrent une rapide danse de guerre, de sorte que les oreilles de Cronos puissent entendre le fracas de leurs boucliers, mais n'entendent pas vos cris d'enfants. » Dans le monde réel du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les divers publics d'Apollonios doivent eux aussi avoir fait l'association avec la pyrrhique, la danse armée accomplie dans les fêtes à travers toute la Grèce par les Païdès, les Éphèbes et les Andrès. Les rois eux-mêmes l'apprécient et la pratiquent. En 300 ou 299, à l'âge de 24 ans, le jeune prince séleucide Antiochos Ier assista à Didyme, près de Milète, durant les Didyméa, à une représentation de Pyrrhique exécutée par un chœur cyclique. La tradition veut aussi que Antiochos III, alors âgé d'un peu plus de 20 ans, ait dansé aux armes avec ses philoi, ses amis, pendant des banquets. La musique, les mouvements, les bruits retentissants associés à ce type de danse étaient profondément ancrés dans l'imaginaire des Grecs. Le poète Callimaque, contemporain d'Apollonios, l'utilise à bon escient dans son hymne à Délos, par exemple pour décrire la colère d'Arès, le dieu de la guerre. Vous l'avez dans votre dossier, le numéro 5. Je cite... Mais Arès souleva de sa base le sommet du mont Pangée et le lança sur les vagues, interrompant leur flux. Ensuite, il rugit et frappa son bouclier avec la pointe de sa lance, rythmant de la sorte un chant de guerre. Les rocs de l'Ossa tremblèrent, de même que la plaine de Cranon et les parages du Pindre ravagés par les vents. Dans sa terreur, toute la Thessalie entra dans la danse, tellement le tonnerre s'élevait de son bouclier. Je suis persuadée qu'il ne s'agit pas fondamentalement, dans tous les cas invoqués, d'une danse éphébique ou initiatique, et je me réjouis de voir que dans son éphébie hellénistique, André Chankowski va dans le même sens. J'ai introduit dans mon propos le poème d'Apollonios pour deux raisons. La première est que la jeunesse héroïque de Jason et de ses compagnons me semble comporter des éléments typiquement hellénistiques. Il est donc parfaitement légitime d'exploiter comme un exemple de traitement de ce thème dans la poésie et plus généralement dans la pensée hellénistique. Par ailleurs, ce passage nous laisse également entrevoir de façon indirecte les lieux de mémoire de la légende argonautique à Sisyphe et nous permet de nous représenter un paysage à la fois agreste et urbain qui faisait sens pour la jeunesse, la cité, jusqu'à ce jour. Le don de Philétairos au néoï de la cité et l'épisode des argonautiques sont comme deux facettes différentes mais complémentaires d'une même réalité. Combien souvent, il n'est pas aisé d'établir un lien direct entre elles. Les Galates ne sont pas exactement des Gégénès. Notre vision demeure brouillée, mais il faut s'efforcer de ne pas perdre l'une de vue lorsqu'on tente d'analyser l'autre, et inversement. Je vous remercie pour votre attention.